Les maîtres sonneurs, 23e veillée. Ce n'était pas seulement la beauté surprenante de Thérence qui m'occupait l'esprit, mais un je ne sais quoi qui me la faisait paraître au-dessus de toutes les autres. Je m'étonnais d'aimer tant Brulette qui lui ressemblait si peu, et j'allais me demandant si l'une des deux était trop franche ou l'autre trop fine. Dans mon jugement, Brulette était plus aimable, ayant toujours quelque chose de gentil à dire à ses amis et sachant les retenir autour d'elle par toutes sortes de petits commandements dont les garçons se sentent flattés parce qu'ils aiment à se croire nécessaires. Tout au rebours, Thérence vous marquait franchement n'avoir aucun besoin de vous et semblait même étonnée ou ennuyée que l'on fît attention à elle. Toutes deux sentaient leur prix cependant. Mais tandis que Brulette se donnait la peine de vous le faire sentir aussi, l'autre avait l'air de ne vouloir qu'une estime pareille à celle qu'elle pourrait vous rendre. Et je ne sais comment ce grain de fierté, plus caché, me paraissait une amorce qui donnait la tentation en même temps que la peur. Je trouvais la danse enrayée tout au mieux, et Brulette voltigeant comme un papillon, aux mains et aux bras d'Uriel. Il y avait tant de feu sur leur visage, elle paraissait si ivrée au-dedans et lui au-dehors, qu'ils ne voyaient et n'entendaient rien autour d'eux. La musique les enlevait, mais je crois bien que leurs pieds ne se sentaient point toucher la terre, et que leurs esprits dansaient dans le paradis. Comme, parmi ceux qui mènent la bourrée, il y en a peu qui n'aient point une amour ou une grosse fantaisie en la tête, on ne faisait pas seulement attention à eux, et il y avait tant de vin, de bruit, de poussière, de chansons et de joyeuses paroles dans l'air chaud de la noce, que le soir arriva sans que l'assistance prît grand souci du contentement particulier d'un chacun. Brulette ne se dérangea que pour me demander des nouvelles de Charlot, et pourquoi Thérence ne venait point. Mais elle se tranquillisa aisément sur mes réponses, et Uriel ne lui donna pas le temps d'en écouter bien long sur la conduite de son gars. Je ne me sentais point en goût de danser, car il se faisait que je ne trouvais là aucune fille jolie, encore qu'il y en eût. Mais pas une ne ressemblait à Thérence, et Thérence ne me sortait point de la tête. Je me mis en un coin pour regarder son frère, afin d'avoir quelques nouvelles à lui en donner quand elle me questionnerait. Uriel avait si bien oublié son tourment qu'il était tout bonheur et toute jeunesse. Il se trouvait bien assorti avec Brulette, en ce qu'il aimait le plaisir et le bruit autant qu'elle, quand il s'y mettait, et il avait le dessus sur tous les autres garçons, en ce qu'il ne se lassait jamais à la danse. Chacun sait qu'en tout pays, les femmes enterrent les hommes à la bourrée et tiennent encore sans débrider quand nous sommes crevés de soif et de chaud. Uriel n'était curieux de boire ni de manger, et on aurait dit qu'il avait juré de rassasier Brulette de son meilleur divertissement. Mais, au fond, je voyais bien qu'il y prenait son propre plaisir, et qu'il aurait fait le tour de la terre sur un pied, pourvu que cette légère danseuse fût à son bras. À la fin, plusieurs garçons, ennuyés d'être refusés par Brulette, observèrent qu'il y avait un étranger bien favorisé d'elle, et on commença d'en causer autour des tables. Il faut vous dire que Brulette, qui ne s'était pas attendue à se tant divertir, et qui avait un peu de mépris dorénavant pour tous les galants des environs, à cause du mauvais comportement de leur langue, ne s'était point mise dans de grands atours. Elle avait plutôt l'air d'une petite nonne que de la reine de chez nous. Et, comme il y avait là de grandes toilettes de gala, elle n'avait pas fait les beaux effets du temps passé. Cependant, quand elle se fut animée à la danse, force fut de se rappeler que nul ne pouvait lui être comparé. Et ceux qui ne la connaissaient point, ayant questionné ceux qui la connaissaient, il en fut dit du mal et du bien autour de moi. J'y prêtai l'oreille, voulant en avoir le cœur net, et ne donnai point à connaître quelle était ma parente. Alors j'entendis revenir l'histoire du moine et de l'enfant, de Joseph et du Bourbonnais, et il fut dit que ce n'était peut-être pas Joseph l'auteur du péché, mais bien ce grand garçon, si empressé auprès d'elle, et paraissant si sûr de son fait qu'il ne souffrait personne autre s'en approcher. « Eh bien, dit l'un, si c'est lui et qu'il vienne à réparation, mieux vaut tard que jamais. » « Ma foi, dit un autre, elle n'avait pas mal choisi. C'est un gars superbe et qui paraît très bon enfant. » « Après tout, dit un troisième, ça fera un beau couple, et quand le prêtre y aura passé, ça sera aussi bon qu'un autre ménage. » Par là, je vis bien qu'une femme n'est jamais perdue tant qu'elle a une bonne protection, mais qu'il en faut une, franche et finale, car cent ne valent rien, et tant plus s'en mêlent, tant plus la rabaissent et lui font tort. Dans ce moment-là, ma tante prit Huriel à part, et l'amenant auprès de moi, lui dit « Je vous veux faire trinquer une verrée de mon vin à ma santé, car vous me réjouissez l'âme de si bien danser et de mettre si bien en train le monde de ma noce. » Huriel avait regret de quitter Brulette pour un moment, mais la maîtresse du logis était fort décidée et il n'y avait pas moyen de lui refuser une politesse. Ils s'assirent donc à un bout de table qui se trouvait vide, une chandelle posée entre eux, et se voyant face à face. Ma tante Marguitonne était, comme je vous l'ai dit, une toute petite femme qui avait oublié d'être sotte. Elle portait la plus drôle de figure qu'on pût voir, très blanche et très fraîche, encore qu'elle eût la cinquantaine, et mise au monde 14 enfants. Je n'ai jamais vu un si long nez, avec de si petits yeux, enfoncés de chaque côté comme par une vrille, mais si vif et si malin qu'on ne les pouvait regarder sans avoir envie de rire et de bavarder. Je vis pourtant qu'Huriel était sur ses gardes, et qu'il se méfiait du vin qu'elle lui versait. Il trouvait dans son air quelque chose de moqueur et de curieux, et sans trop savoir pourquoi, il se mettait en défense. Ma tante, qui depuis le matin n'avait pas reposé une minute de remuer et de causer, avait grand soif pour de bon, et n'eut point avalé 3 petits coups que le bout pointu de son grand nez devint rouge comme une senelle, et que sa grande bouche, où il y avait des dents blanches et serrées pour 3 personnes plutôt que pour une, se mit à rire jusqu'aux oreilles. Pourtant, elle n'était pas dérangée dans son jugement, car jamais femme ne porta mieux la gaieté sans outrance et la malice sans méchanceté. « Ah ça, mon garçon !» lui dit-elle, après beaucoup de propos en l'air, qui ne lui avaient servi qu'à faire passer la première soif. « Vous voilà, pour tout de bon, accordé avec ma Brulette. Il n'y a point à reculer, car ce que vous souhaitiez est arrivé. Tout le monde en cause, et si vous pouviez entendre, comme moi, ce qui se dit de tous les côtés, vous verriez qu'on vous met sur le dos le futur aussi bien que le passé de ma jolie nièce. » Je vis que cette parole enfonçait un couteau dans le cœur d'Huriel et le faisait tomber des étoiles dans les épines. Mais il y fit bonne contenance et répondit en riant « Je souhaiterais, ma bonne dame, avoir eu le passé, car tout en elle n'a pu être que beau et bon. Mais si j'ai le futur seulement, je me tiendrai pour bien partager du bon Dieu. » « Et ça, je vous serai !» riposta ma tante, riant toujours, et le regardant de près, avec ses petits yeux verts qui ne voyaient pas de loin, de telle façon qu'on eût dit qu'elle lui voulait percer le front avec son nez effilé. « Quand on aime tout, et on ne se rebute de rien. » « C'est ma volonté, » dit Huriel d'un ton sec qui ne démonta point ma tante. « Et c'est d'autant mieux de votre part que la pauvre Brulette a plus d'ordre que de bien. Vous savez sans doute que toute sa dot tiendrait bien dans votre verre, et si n'y a-t-il point de louis d'or dans son compte ?»« Eh bien, tant mieux, » dit Huriel. « Le compte en sera fait vitement, et je n'aime point à perdre mes heures dans les additions. » « D'ailleurs, » fit ma tante, « Un enfant tout élevé est un embarras de moins dans un ménage, surtout si le père fait son devoir. Comme il le fera, je vous en réponds. » Le pauvre Huriel eut chaud et froid. Mais pensant que ce fut une épreuve, il la soutint et dit « Le père fera son devoir. Moi aussi, j'en réponds, car il n'y aura pas d'autre père que moi pour tous les enfants nés ou à naître. » « Oh, quant à ça, reprit-elle, vous n'en serez pas le maître, je vous en donne ma parole. » « J'espère que si, » dit-il en serrant son verre, comme s'il eût voulu écraser dans ses doigts. « Quiconque abandonne son bien n'a plus à y repêcher, et je suis un gardien assez fidèle pour ne point souffrir les maraudeurs. » Ma tante allongea sa petite main sèche et la passa sur le front d'Huriel. Elle y sentit la sueur, encore qu'il fût très pâle. Et, changeant tout à coup sa mine de malin diable en une figure bonne et franche, comme l'était le fond de son cœur, « Mon garçon, lui dit-elle, mettez vos coudes sur la table et venez ici tout auprès de ma bouche. Je veux vous donner un bon baiser sur la joue. » Huriel, étonné de son air attendri, se prêta à sa fantaisie. Elle releva les cheveux épais de sa tempe et avisa le gage de Brulette, qu'il portait toujours et que sans doute elle connaissait. Alors, approchant sa grande bouche comme si elle l'eût voulu mordre, elle lui glissa 4 ou 5 paroles dans le tuyau de Louis, mais si bas, que je n'en pus rien attraper. Puis elle ajouta tout haut en lui pinçant le bout de l'oreille. « Allons, voilà une oreille très fidèle, mais convenez qu'elle en est bien récompensée. » Huriel ne fit qu'un saut par-dessus la table, renversant les verres et la chandelle que je n'eus que le temps de rattraper. Il se trouvait déjà assis auprès de ma petite tante et l'embrassait aussi fort que si elle eût été la mère qu'il avait mise au monde. Il paraissait comme fou, criait et chantait, buvait et trinquait, et ma petite tante, riant comme une petite crécelle, lui disait en choquant son verre « À la santé du père de votre enfant !»« C'est ce qui prouve, » dit-elle aussitôt en se retournant vers moi, « que les plus malins sont quelquefois ceux qu'on croit les plus sots, de même que les plus sots se trouvent être ceux qui se croient bien malins. Tu peux le dire ainsi, toi, mon tiéné, qui as le cœur droit et la parenté fidèle. Et je sais que tu t'es conduit avec ta cousine comme si tu lui eusses été frère. Tu mérites d'en être récompensé, et je compte que le bon Dieu ne te fera pas banqueroute. Un jour ou l'autre, il te donnera aussi ton parfait contentement. » Là-dessus, elle s'en alla, et Huriel, me serrant dans ses bras, « Ta tante a raison, me dit-il, c'est la meilleure des femmes. Tu n'es pas dans le secret, mais ça ne fait rien. Tu n'en es que meilleure amie. Aussi, donne-moi ta parole, tiéné, que tu viendras travailler ici tout l'été avec nous, car j'ai mon idée sur toi. Et si Dieu m'assiste, tu m'en remercieras bel et bien. » « Si je t'entends, lui dis-je, tu viens de boire ton vin bien pur, et ma tante en a retiré le brin de paille qui t'aurait fait tousser. Mais ton idée sur moi me paraît plus difficile à contenter. » Ami tiéné, le bonheur se gagne, et tu n'as pas une idée contraire à la mienne. J'ai peur de l'avoir trop pareille, mais ça ne suffit pas. Sans doute, mais qui ne risque rien à rien. Es-tu si berrichon que tu ne veuilles tenter le sort? Tu me donnes trop bon exemple pour que j'y fasse le couard, répondis-je. Mais crois-tu donc... Brulette vint nous interrompre. Et nous vîmes à son air qu'elle ne se doutait toujours de rien. « Asseyez-vous là, » dit Huriel en l'attirant sur ses genoux, « comme cela se fait chez nous sans qu'on y voie du mal. Et dites-moi, ma chère mignonne, si vous n'avez point envie de danser avec quelque autre que moi. Vous m'avez donné et tenu parole. C'est tout ce que je souhaitais pour m'ôter un chagrin que j'avais sur le cœur. Mais si vous pensez qu'on en parlera d'une manière qui vous fâcherait, me voilà soumis à votre plaisir, et ne danserai plus qu'à votre commandement. » « Est-ce donc, maître Huriel, répondit Brulette, que vous êtes là de ma compagnie, et que vous souhaitez faire connaissance avec les autres jeunesses de la noce ?»« Oh, si vous le prenez comme ça !» s'écria Huriel tout éperdu de joie. « À la bonne heure. Je ne sais pas seulement s'il y a ici d'autres jeunesses que vous, et ne veux pas le savoir. » Alors il lui présenta son verre, la priant d'y toucher avec ses lèvres, et but ensuite de grand cœur. Puis il cassa le verre pour que nul autre ne s'en pût servir, et emmena danser sa fiancée, tandis que je me pris à réfléchir sur la chose qu'il m'avait donnée à entendre, et dont je me sentais tout je ne sais comment. Je ne m'étais pourtant pas encore tâtée de ce côté-là, et il ne m'avait jamais semblé que je fusse de nature assez ardente pour m'éprendre, à la légère, d'une fille aussi sérieuse que Thérence. Je m'étais sauvée du dépit de ne point plaire à Brulette, par mon humeur gaie et complaisante à la distraction. Mais je ne pouvais pas penser à Thérence sans une sorte de tremblement dans la moelle de mes os, comme si l'on m'eût invité à voyager en pleine mer, moi qui n'avais jamais mis le pied sur un bateau de rivage. « Est-ce que, par hasard, pensais-je, j'en serais tombé amoureux aujourd'hui sans le savoir ? Il faut le croire, puisque voilà Huriel qui m'y pousse, et dont l'œil aura saisi la vérité sur ma figure. Mais je n'en suis pas certain, parce que je me sens comme étouffée depuis tantôt, et il me semblait que l'amour devait prendre plus gaiement que ça. Tout en devisant avec moi-même, je me trouvais, je ne saurais dire comment, arrivé au vieux château. Ce vieux tas de pierres dormait à la lune, aussi muet que ceux qui l'ont bâti. Seulement une petite clarté, sortant de la chambre que Thérence y occupait sur le préau, annonçait que les morts n'en étaient plus les seuls gardiens. Je m'avançais bien doucement, et regardant à travers le feuillage de la petite croisée, qui n'avait ni vitrage ni boisure, je vis la belle fille des bois disant sa prière, à genoux, auprès de son lit, où Charlot était couché et dormait à pleins yeux. Je vivrai bien 100 ans que je n'oublierai point la figure qu'elle avait dans ce moment-là. C'était comme une image de sainte, aussi tranquille que celle que l'on taille en pierre pour les églises. Je venais de voir Brulette aussi brillante qu'un soleil d'été, dans la joie de son amour et le vol de sa danse. Thérence était là, seule et contente, aussi blanche que la lune dans la nuit claire du printemps. On entendait au loin la musique des noceux, mais cela ne disait rien à l'oreille de la fille des bois. Et je pense qu'elle écoutait le rossignol, qui lui chantait un plus beau cantique dans le buisson voisin. Je ne sais point ce qui se fit en moi, mais voilà que tout d'un coup, je pensais à Dieu, idée qui ne me venait peut-être pas assez souvent dans ce temps de jeunesse et d'oubliance où j'étais, mais qui me plia les deux genoux, comme par un secret commandement, et me remplit les yeux de larmes qui tombèrent en pluie, comme si un gros nuage venait de se crever dans ma tête. Ne me demandez point quelle prière je fis aux bons anges du ciel. Je ne m'entendais pas moi-même. Je n'eusse pas encore osé demander à Dieu de me donner Thérence, mais je crois bien que je le requis de me rendre mieux méritant pour un si grand honneur. Quand je me relevai de terre, je vis que Thérence avait fini son oraison et qu'elle s'apprêtait à dormir. Elle avait ôté sa coiffe, et j'appris qu'elle avait des cheveux noirs qui lui tombaient en grosses tresses jusqu'aux pieds. Mais devant qu'elle eût ôté la première épingle de son habillement, vous me croirez si vous voulez, je m'étais déjà sauvée, comme si j'eusse craint d'être en délit de sacrilège. Je n'étais pourtant pas plus aucun autre, et je n'avais point coutume de bouder le diable. Mais Thérence me tenait le cœur en respect, comme si elle eût été cousine de la Sainte Vierge. Comme je sortais du vieux château, un homme, que je ne voyais pas dans l'ombre du portail, me surprit en me portant la parole. « Eh, l'ami, disait-il, apprenez-moi si c'est là, comme je pense, l'ancien château du Chassin. » « Le grand bûcheux !» m'écriai-je, le reconnaissant à la voix. Et je l'embrassai d'un si grand cœur qu'il en fut étonné, car il n'avait pas autant souvenir de moi comme j'avais de lui. Mais sitôt qu'il m'eut remis, il me fit grandes amitiés et me dit « Apprends-moi vitement, mon garçon, si tu as vu mes enfants ou si tu les sais arriver en cet endroit. » « Ils y sont depuis ce matin, répondis-je, ainsi que moi et ma cousine Brulette. Votre fille Thérence est là, bien tranquille, tandis que ma cousine est, ici près, à la noce d'une autre cousine, avec votre cher bon fils Uriel. » « Dieu merci, dit le grand bûcheux, je n'arrive pas trop tard. Et Joseph est à cette heure sur la route de Nohant, où il croit bien les trouver ensemble. » « Joseph, il est donc venu comme vous? On ne vous attendait tous deux que dans 5 ou 6 jours. Et Uriel nous disait « Tu vas savoir comment tournent les choses de ce monde !» dit le père Bastien en me tirant un peu sur le chemin, afin de n'être entendu que de moi. « De toutes les choses qui vont au gré du vent, la cervelle des amoureux est la plus légère. Uriel t'a-t-il raconté tout ce qui regarde Joseph ?» Oui, de tout point, je crois. Joseph, en voyant partir Uriel et Thérence pour le pays d'ici, lui parla dans l'oreille. Sais-tu ce qu'il lui a dit? Oui, je le sais, père Bastien, mais... Tais-toi, car moi aussi je le sais. Voyant mon fils changer de couleur et Joseph se sauver dans le bois d'un air tout singulier, j'allais après lui et lui commandai de me dire quel secret il venait de raconter à Uriel. « Mon maître, dit Joseph, je ne sais pas si j'ai bien ou mal fait. J'ai cru y être obligé, et voilà ce que c'est. Je vous le dois pareillement. » Là-dessus, il me raconta avoir reçu une lettre de son pays où on lui apprenait que Brulette élevait un enfant qui ne pouvait être que le sien. Et, me disant cela avec beaucoup de souffrance et de dépit, il me conseilla fortement de courir après Uriel pour l'empêcher d'aller faire une grande sottise ou boire une grosse honte. Quand je l'eus questionné sur l'âge de l'enfant et qu'il m'eut fait lire la lettre qu'il avait toujours sur lui, comme s'il eût voulu porter ce remède sur la blessure de son amour, je ne me sentis pas du tout persuadé qu'on ne se fût point moqué de lui. D'autant que le garçon Carnat, qui lui écrivait cette chose, en réponse à une avance de Joseph pour se faire honnêtement agréer sonneur de musette en son pays, paraissait y avoir mis de la malice pour empêcher son retour. Puis, me rappelant la décence et la modestie de la petite Brulette, je me persuadai de plus en plus qu'on lui faisait injure, et ne pus m'empêcher de railler et de blâmer Joseph pour avoir cru si légèrement à une affaire si vilaine. J'aurais sans doute mieux fait, mon bon tienné, de le laisser, méprise ou non, dans la croyance que Brulette était indigne de son attachement. Mais que veux-tu? L'esprit de justice conduisait ma langue et m'empêchait de songer aux conséquences. J'étais si mécontent de voir diffamer une pauvre honnête fille que je parlais comme je m'y sentais poussée. Cela fit sur Joseph plus d'effet que je n'aurais cru. Il tourna vitement du tout au tout, et versant des larmes comme un enfant, il se laissa choir à terre, déchirant ses habits et s'arrachant les cheveux, avec tant de chagrin et de colère contre lui-même que j'eus grand-peine à l'apaiser. Par bonheur que sa santé est devenue pareille à la tienne, car 1 an plus tôt, ce désespoir qui le secouait si fort l'aurait tué. Je passai le restant du jour et toute la veillée seul à seul avec lui, à tâcher de lui remettre l'esprit. Ce n'était point facile pour moi. D'une part, je sais que mon fils, depuis le premier jour où il a vu Brulette, s'est pris pour elle d'une amour très obstiné et qu'il n'a été raccommodé avec la vie que le jour où Joseph ne s'est plus mis en travers de son espérance. De l'autre part, j'ai pour Joseph une grande amitié aussi, et je sais que Brulette est dans son idée depuis qu'il est au monde. Il me fallait sacrifier l'un des deux, et je me demandais si je ne serais pas un égoïste de père en me prononçant pour la satisfaction de mon fils au détriment de mon élève. Tiens, tu ne connais plus Joseph, et peut-être ne l'as-tu jamais bien connu. Ma fille Thérence a pu t'en parler un peu sévèrement. Elle ne le juge pas de la même manière que moi. Elle le croit égoïste, dur et ingrat. Il y a du vrai là-dedans. Mais ce qu'il excuse devant mes yeux ne peut l'excuser devant les yeux d'une jeunesse comme elle. Les femmes, mon petit Tiennet, ne nous demandent que de les aimer. Elles ne prennent que dans leur cœur la subsistance de leur vie. Dieu les a faites comme ça, et nous en sommes heureux quand nous sommes dignes de le comprendre. Il me semble, observai-je au grand bûcheux, que je le comprends à cette heure, et que les femmes ont grandement raison de ne vouloir de nous que notre cœur, car c'est la meilleure chose que nous ayons. Sans doute, mon fils, reprit ce grand brave homme. J'ai toujours pensé ainsi. J'ai aimé la mère de mes enfants plus que l'argent, plus que le talent, plus que le plaisir et la gaudriole, plus que tout au monde. Je vois bien que mon fils Uriel est de mon acabit, puisqu'il a changé sans regret d'état et de goût pour se rendre capable de prétendre à Brulette. Et je crois que tu penses de même, puisque tu le dis si franchement. Mais enfin, le talent est quelque chose que Dieu estime aussi, puisqu'il ne le donne pas à tout le monde, et on doit du respect et du secours à ceux qu'il a marqués, comme les ouailles de son choix. Croyez-vous donc que votre fils Uriel n'ait pas autant d'esprit et plus de talent dans la sonnerie que notre José ? Mon fils Uriel a de l'esprit et du talent. Il a été reçu maître sonneur à 18 ans. Et encore qu'il n'en fasse pas le métier, il en a la connaissance et la facilité. Mais il y a une grande différence, ami Tiennet, entre ceux qui retiennent et ceux qui inventent. Il y a ceux qui, avec des doigts légers et une mémoire juste, disent agréablement ce qu'on leur a enseigné. Mais il y a ceux qui ne se contentent d'aucune leçon et vont devant eux, cherchant des idées, et faisant à tous les musiciens à venir le cadeau de leur trouvaille. Or, je te dis que Joseph est de cela, et qu'il y a même en lui deux natures bien remarquables. La nature de la plaine, où il est né, et qui lui donne des idées tranquilles, fortes et douces, et la nature de nos bois et de nos collines, qui s'est ouverte à son entendement, et qui lui a donné des idées tendres, vives et sensibles. Il sera donc, pour ceux qui auront des oreilles pour entendre, autre chose qu'un sonneur ménétrier de campagne. Il sera un vrai maître sonneur des anciens temps, un de ceux que les plus forts écoutent avec attention et qui commandent des changements à la coutume. Vous croyez donc, père Bastien, qu'il deviendra un second grand bûcheux de votre ordre ? Ah, mon pauvre Tiennet, répondit le vieux sonneur en soupirant. Tu ne sais de quoi tu parles, et j'aurai peut-être de la peine à te le faire comprendre.
Essayez toujours, lui dis-je. Vous êtes bon à écouter, et il n'est pas bon que je reste toujours simple comme je suis.
24e veillée. Sache donc, reprit le grand bûcheux, oubliant son récit aussi bien que moi, car il aimait à causer quand il se voyait entendu volontiers, que j'aurais été quelque chose si je m'étais donné tout entier et sans partage à la musique. Je l'aurais pu si je m'étais fait ménétrier, comme c'était l'idée de ma jeunesse. Ce n'est pas qu'on gagne du talent à brailler 3 jours et 3 nuits durant à une noce, comme le malheureux que j'entends d'ici estropier notre branle montagnard. On s'y fatigue et on s'y rouille quand on a en vue que l'argent a gagné. Mais il y a manière pour un artiste de vivre de son corps sans se tuer l'âme dans ce métier-là. Comme la moindre fête rapporte 2 ou 3 pistoles, on peut en prendre à son aise, se soutenir frugalement et voyager pour son plaisir et son instruction. C'est ce que Joseph veut faire et ce que je lui ai toujours conseillé. Mais voici ce qui m'arriva à moi. Je devins amoureux, et la mère de mes chers enfants ne voulut point entendre à être la femme d'un ménétrier sans feu ni lieu, toujours dehors, passant les nuits en vacarme, les jours en sommeil, et finissant la vie en débauche. car, par malheur, il est rare que l'on s'en puisse préserver toujours dans un pareil état. Elle me retint donc au travail des bois et tout fut dit. Je n'ai jamais regretté mon talent, tant qu'elle a vécu. Pour moi, je te l'ai dit, l'amour était la plus belle des musiques. Restée veuve de bonne heure et chargée de 2 jeunes enfants, je me suis donnée tout à eux. Mais mon savoir s'y est bien rouillé, et mes doigts sont devenus crochus à manier toujours la serpe et la cognée. Aussi, je te confesse, Tiennet, que si mes 2 enfants étaient établis heureusement et selon leur cœur, je quitterais cette tâche pesante de lever le fer et de fendre le bois, et m'en irais, content et rajeuni, vivre à ma guise et chercher la causerie des anges, jusqu'à ce que la vieillesse me ramenât, engourdie et rassasiée, au foyer de ma famille. Et puis, je me lasse de couper des arbres. Sais-tu, Tiennet, que je les aime, ces beaux vieux compagnons de ma vie, qui m'ont raconté tant de choses dans les bruits de leur feuillage et les craquements de leurs branches. Et moi, plus malsain que le feu du ciel, je les en ai remerciés en leur plantant la hache dans le cœur et en les couchant à mes pieds, comme autant de cadavres mis en pièces. Ne ris pas de moi. Je n'ai jamais vu tomber un vieux chêne ou seulement un jeune saule sans trembler de pitié ou de crainte, comme un assassin des œuvres du bon Dieu. Il me tarde de me promener sous des ombrages qui ne me repousseront plus comme un ingrat et qui me diront enfin des secrets dont je n'étais pas digne. Le grand bûcheux, qui s'était passionné à parler, resta pensif un moment, et moi aussi, étonné de ne point le trouver aussi fou que tout autre m'eût semblé en sa place, soit qu'il sût me rendre ses idées, soit que j'eusse moi-même la tête montée d'une certaine façon. « Tu penses sans doute, reprit-il, que nous voilà bien loin de Joseph, mais tu te trompes. Nous y sommes d'autant mieux. Et à présent, tu comprendras pourquoi je me suis décidé, après un peu d'hésitation, à brusquer les peines de ce pauvre enfant. Je me suis dit, et j'ai vu à la tournure que prenait son chagrin, qu'il ne pourrait jamais rendre une femme heureuse, et que, partant, il ne serait jamais heureux lui-même avec une femme, à moins qu'elle ne fût remplie d'orgueil à cause de lui. Car Joseph, il faut bien le reconnaître, n'a pas tant besoin d'amitié que d'encouragement ou de louange. Ce qui l'a rendu si épris de Brulette, c'est que de bonne heure elle l'a écouté et excité à la musique. Ce qui l'a empêché d'aimer ma fille, car son retour vers elle n'a été que du dépit, c'est que ma fille lui demandait plus d'attachement que de savoir, et le traitait comme un fils plutôt que comme un homme de grand talent. J'ose dire à présent que j'ai lu dans le cœur de ce garçon et que toute son idée était d'éblouir un jour Brulette. Et comme Brulette était tenue pour la reine de beauté et de fierté de son endroit, il aurait, grâce à elle, tâté de la royauté tout son sou. Mais Brulette, fanée par une faute, ou tout au moins rabaissée dans l'apparence, Brulette, moquée et critiquée, n'était plus son rêve. Et moi, qui connaissais aussi le cœur de mon fils Uriel, je savais qu'il ne condamnerait pas Brulette sans examen, et que si elle n'avait rien fait de condamnable, il l'aimerait et la soutiendrait, d'autant mieux qu'elle serait plus méconnue. Voilà donc ce qui m'a décidé, en fin de compte, à combattre l'amour de Joseph, et lui conseiller de ne plus songer au mariage. Et mêmement, j'ai tâché de lui faire entendre ce dont j'étais quasiment certain, c'est que Brulette lui préférait mon fils. Il a paru se rendre à mes raisons, mais c'était, je pense, pour s'en débarrasser. Car au petit jour, hier matin, j'ai vu qu'il faisait ses dispositions pour s'en aller. Encore qu'il se crût plus fin que moi et comptât pouvoir déloger par surprise, je me suis accrochée à lui jusqu'à ce que, perdant patience, il m'ait laissé voir le fond du sac. J'ai connu alors que son dépit était gros et qu'il était décidé à courir après Uriel pour lui disputer Brulette, si Brulette lui en paraissait valoir la peine. et comme il n'était pas, pour cela, assuré du dernier point, je pensais devoir le blâmer, voire me moquer d'un amour comme le sien, qui n'était que jalousie sans estime, et comme qui dirait, gourmandise sans appétit. Il a confessé que j'y voyais clair, mais il est parti quand même. Et à cela, tu reconnais son obstination. Au moment de recevoir la maîtrise de son art, et quand le rendez-vous était pris pour un concours du côté d'Auzance, il a tout quitté, sauf à être retardé encore longtemps, disant qu'il se ferait recevoir de gré ou de force en son pays. Le voyant si bien décidé que pour un peu il se serait emporté contre moi, j'ai pris le parti de venir avec lui, craignant quelque chose de mauvais dans son premier mouvement, ou quelque nouveau malheur dans celui d'Uriel. Nous nous sommes départis l'un de l'autre, seulement à une demi-lieue en sus, au bourg de Sarzay. Et tandis qu'il prenait le chemin de Nohan, j'ai pris celui qui m'a amené ici, espérant bien y trouver encore Uriel et pouvoir raisonner avec lui, et me disant d'ailleurs que mes jambes me porteraient bien encore jusqu'à Nohan ce soir, si besoin était. Par bonheur, vous pourrez vous reposer tranquillement cette nuit, dis-je au grand bûcheux. Nous aviserons demain. Mais êtes-vous donc tourmenté pour tout de bon de la rencontre de ces deux galants? Joseph n'a jamais été querelleux à ma connaissance, et je l'ai toujours vu se taire quand on lui montrait les dents. Oui, oui, répondit le père Bastien. Tu as vu cela dans le temps qu'il n'était qu'un enfant maladif et défiant de sa force. Mais il n'y a pire eau que celle qui dort, et il n'est pas toujours sain d'en remuer le fond. Ne voulez-vous point entrer dans votre nouvelle demeurance et voir votre fille? Tu m'as dit qu'elle était là bien tranquille. Je n'en suis donc point en peine, et me sens plus pressée de savoir la vérité sur Brulette. Car, enfin, encore que mon cœur l'ait défendu, mon raisonnement me dit qu'il faut qu'il y ait eu, en sa conduite, quelque petite chose qui prête au blâme. Et j'en dois être juge avant que d'aller plus loin. J'allais lui raconter ce qui s'était passé une heure auparavant, sous mes yeux, entre Uriel et ma tante, quand Uriel lui-même arriva vers nous, dépêché par Brulette, qui craignait la gêne occasionnée à Thérence pour le dormir de Charlot. Le père et le fils eurent alors une explication, où Uriel, priant son père de ne point lui faire dire un secret où il avait engagé sa parole, et dont Brulette même ne le savait pas instruit, lui jura, sur son baptême, que Brulette était digne en tout d'être bénie par lui. « Venez la voir, mon cher père, » ajouta-t-il. « Cela vous est bien commode, car en ce moment, on danse dehors, et vous n'avez pas besoin d'être invité pour vous trouver là. À la manière dont elle vous embrassera, vous verrez bien que jamais fille plus aimable et plus mignonne ne fut plus saine de sa conscience. Je n'en doute plus, mon fils, et j'irai seulement pour te contenter, ainsi que pour le plaisir de la voir. Mais demeurons encore un peu, car je te veux parler de Joseph. » Je pensais devoir les laisser sans expliquer ensemble et aller avertir ma tante de l'arrivée du grand bûcheux, sachant bien qu'elle lui ferait bon accueil et ne le laisserait point dehors. Mais je ne trouvais au logis que Brulette toute seule. Toute la noce, avec la musique en tête, avait été portée la rôtie aux nouveaux mariés, lesquels s'étaient retirés en une maison voisine, car il était environ les 11 heures du soir. C'est une ancienne coutume, que je n'ai jamais trouvée bien honnête, d'aller ainsi troubler, par une visite et des chansons de joyeuseté, la première honte d'une jeune mariée. Et encore que les autres jeunes filles s'y fussent rendues avec ou sans malice, Brulette avait eu la décence de ne bouger du coin du feu, où je la vis assise, comme surveillant un reste de cuisine, mais prenant un peu de repos dont elle avait besoin. Et comme elle me paraissait assoupie, je ne la voulus point déranger, ni lui ôter la bonne surprise du réveil que lui ferait le grand bûcheux. Bien là, moi-même, je m'assis contre une table où j'allongeai les deux bras et la tête dessus, comme on se met quand on veut se refaire d'une ou deux minutes de sommeil. mais je pensais à Thérence et ne dormis point. Seulement, j'eus, pour un moment bien court, les idées embrouillées. Lorsque, à un petit bruit, j'ouvris les yeux sans lever la tête, et je vis qu'un homme était entré et s'approchait de la cheminée. Encore qu'on eût emporté toutes les chandelles pour la visite au nouveau marié, le feu de fagot qui flambait envoyait assez de clarté dans la chambre pour me laisser reconnaître bien vite celui qui était là. C'était Joseph, lequel, sans doute, avait rencontré sur le chemin de Nohain quelques noceux, qui, lui apprenant où nous étions, l'avait porté à revenir sur ses pas. Il était tout poudreux de son voyage et portait son paquet au bout d'un bâton, qu'il jeta en un coin et resta planté, comme une pierre levée, à regarder Brulette endormie, sans faire attention à moi. Depuis un an que je ne l'avais vu, il s'était fait en lui autant de changements que dans Thérence. La santé lui étant venue plus belle qu'il ne l'avait jamais eue, on pouvait dire qu'il était joli homme et que sa figure carrée et son corps sec marquaient plus de muscles que de maigreur. Il était jaune de figure, autant comme porté à la bile que comme recuit par le hâle, et ce teint obscur allait bien avec ses grands yeux clairs et ses longs cheveux plats. C'était toujours la même physionomie triste et songeuse, mais il s'y était mêlé quelque chose de décidé et de hardi, qui montrait enfin le rude vouloir, si longtemps caché au-dedans. Je ne bougeais, voulant savoir de quelle façon il aborderait Brulette, et ce qu'on pouvait augurer de sa prochaine rencontre avec Huriel. Sans doute il étudiait la figure de Brulette et y cherchait la vérité, et peut-être que sous ses yeux, clos par un léger somme, il reconnut la paix du cœur. Car la fillette était bien jolie, vue comme cela au feu de l'âtre. Elle avait encore le teint animé de plaisir, la bouche souriante de contentement, et les fines soies de ses yeux abaissés envoyaient sur ses joues une ombre très douce, qui semblait cligner en dessous, comme ces regards fripons que les jeunes filles détournent pour mieux voir. Mais elle dormait pour tout de bon, et rêvant sans doute d'Huriel, ne songeait pas plus à amorcer Joseph qu'à le repousser. Je vis qu'il la trouvait si belle que son dépit ne tenait plus qu'à un fil, car il se baissa vers elle, et, avec une résolution dont je ne l'aurais jamais cru douée, il approcha sa bouche tout près de la sienne et l'eut touchée, si, par je ne sais quel bisque qui me vint, je n'eusse toussé fortement pour arrêter le baiser au passage. Brulette s'éveilla en sursaut. Je fis comme si pareille chose m'arrivait, et Joseph se trouva un peu sot entre nous deux, qui lui demandions ses portements, sans qu'il y eût apparence de confusion dans Brulette ni de malice dans moi. 25e veillée. Joseph se remit très vite, et reprenant son courage, comme s'il n'en eût point voulu garder le démenti, « Je suis aise de vous trouver séant, » dit-il à Brulette. « Et après un an écoulé sans nous voir, ne voulez-vous plus embrasser votre ancienne amie ?» Il s'approcha encore. Mais elle se recula, étonnée de son air singulier, et lui répondit « Non, José, je n'ai point coutume d'embrasser aucun garçon. Quelque ami ancien qu'il me soit, et quelque plaisir que j'ai à le saluer. » « Vous êtes devenu bien farouche !» reprit-il d'un air de moquerie et de colère. « Je ne sache pas, José, dit-elle, avoir jamais été farouche hors de propos avec vous. Vous ne m'avez point mise dans le cas de l'être, et comme vous ne m'avez jamais demandé de me familiariser avec vous, je n'ai pas eu la peine de me défendre de vos embrassades. Qu'est-ce qu'il y a donc de changé entre nous pour que vous me réclamiez ce qui n'est jamais entré dans nos amitiés ?» « Voilà bien des paroles et des grimaces pour un baiser, » dit Joseph, se montant peu à peu. « Si je ne vous ai jamais réclamé ce dont vous étiez si peu avare avec les autres, c'est que j'étais un enfant très sot. J'aurais cru que vous me recevriez mieux, à présent que je ne suis plus si niais et si craintif. »« Qu'est-ce qu'il a donc ? me dit Brulette, étonnée et mêmement effrayée en se rapprochant de moi. Est-ce lui ou quelqu'un qui lui ressemble? J'ai cru reconnaître notre José, mais à présent ce n'est plus ni sa parole, ni sa figure, ni son amitié. En quoi vous ai-je manqué, Brulette? Reprit Joseph, un peu démonté et déjà repentant au souvenir du passé. Est-ce parce que j'ai le courage qui me manquait pour vous dire que vous êtes pour moi la plus belle du monde et que j'ai toujours souhaité vos bonnes grâces? Il n'y a point là d'offense, et je n'en suis peut-être pas plus indigne que bien d'autres souffert autour de vous. » Disant cela avec un retour de dépit, il me regarda en face, et je vis qu'il souhaitait chercher querelle au premier qui s'y voudrait prêter. Je ne demandais pas mieux que d'essuyer son premier feu. « Joseph, lui dis-je, Brulette a raison de te trouver changé. Il n'y a rien là d'étonnant. On sait comment on se quitte et non comment on se retrouvera. Ne sois donc pas surpris si tu trouves en moi aussi un petit changement. J'ai toujours été doux et patient, te soutenant en toute rencontre et te consolant dans les ennuis. Mais si tu es devenu plus injuste que par le passé, je suis devenu plus chatouilleux. Et je trouve mauvais que tu dises devant moi à ma cousine qu'elle est prodigue de baisers et qu'elle souffre trop de gens autour d'elle. » Joseph me regarda d'un œil méprisant et prit véritablement un air de diable emmalicé pour me rire à la figure. Et puis il dit, en croisant ses bras et me toisant comme s'il eût voulu prendre ma mesure, « Ah, vraiment, tiennet, c'est donc toi. Eh bien, je m'en étais toujours douté, à l'amitié que tu me marquais pour m'endormir. « Qu'est-ce que vous entendez par là, José ? » dit Brulette, offensée et pensant qu'il eût perdu l'esprit. « Où avez-vous pris le droit de me blâmer ? Et comment vous passe-t-il par la tête de chercher à voir quelque chose de mal ou de ridicule entre mon cousin et moi ? Êtes-vous donc pris de vin ou de fièvre, que vous oubliez le respect que vous me devez ? Et l'attachement que je croyais mériter de vous ? » Joseph fut battu de l'oiseau, et prenant la main de Brulette dans la sienne, il lui dit avec des yeux remplis de larmes, « J'ai tort, Brulette. Oui, j'ai été un peu secouée par la fatigue et par l'impatience d'arriver. Mais je n'ai pour vous que de l'empressement, et vous ne devez pas le prendre en mauvaise part. Je sais très bien que vos manières sont retenues, et que vous voulez soumission de tout le monde. C'est le droit de votre beauté, qui n'a fait que gagner au lieu de se perdre. Mais convenez que vous aimez toujours le plaisir, et qu'à la danse on s'embrasse beaucoup. C'est la coutume, et je la trouverai bonne quand j'en pourrai profiter à mon tour. Il faut que cela soit, car je sais danser, à présent, tout comme un autre, et pour la première fois de ma vie, je vais danser avec vous. J'entends revenir les musettes. « Venez, et vous verrez que je ne bouderai plus contre le plaisir d'être au nombre de vos serviteurs. » « José, répondit Brulette, que ce discours ne contenta qu'à demi, « vous vous trompez si vous pensez que j'ai encore des serviteurs. J'ai pu être coquette, c'était mon goût, et je n'ai pas de compte à rendre de moi. Mais j'avais aussi le droit et le goût de changer. Je ne danse donc plus avec tout le monde. » Et ce soir, je ne danserai pas davantage. J'aurais cru, dit Joseph piqué, que je n'étais pas tout le monde pour l'ancienne camarade avec qui j'ai communié et vécu sous le même toit. La musique et les noceux qui arrivaient à grand bruit lui coupèrent la parole. Et Huriel, entrant, tout animé, sans faire la moindre attention à Joseph, prit Brulette dans ses bras, l'enleva comme une paille et la conduisit à son père qui était dehors et qui l'embrassa bien joyeusement, au grand crève-cœur de Joseph qui la suivait et qui, serrant les poings, la voyait faire à ce vieux les amitiés d'une fille à son père. Me coulant alors à l'oreille du grand bûcheux, je lui fis observer que Joseph était là et, le prévenant de sa mauvaise humeur, je lui dis qu'il serait à propos qu'il emmenât Huriel, tandis que je déciderais bien aisément Brulette à se retirer aussi. Par ce moyen, Joseph, qui n'était pas de la noce et que ma tante ne retiendrait point, serait bien obligé d'aller coucher à Nohant ou dans quelque autre maison du chassin. » Le grand bûcheux fut de mon avis, et faisant semblant de ne point voir Joseph, qui se tenait à l'écart, il se consulta avec Huriel, tandis que Brulette s'en alla voir dans quel endroit de la maison elle pourrait passer la nuit. Mais ma tante, qui s'était vantée de nous héberger, n'avait pas compté qu'elle prendrait fantaisie de se coucher avant les 3 ou 4 heures du matin. Les garçons ne se couchent même point du tout la première nuit des noces, et font de leur mieux pour que la danse ne périsse point 3 jours et 3 nuits durant. Si l'un d'eux se sent trop fatigué, il s'en va au foin faire un somme. Quant aux filles et femmes, elles se retirent toutes en une même chambre, mais ce ne sont guère que les vieilles et les laides qui lâchent ainsi la compagnie. Aussi, quand Brulette monta en la chambre où elle comptait trouver place auprès de quelques parentes, elle tomba dans toute une ronflerie qui ne lui donna pas seulement un coin grand comme la main. Et celles qu'elle réveilla lui dirent de revenir au jour quand elles iraient reprendre le service de la table. Elle redescendit pour nous dire son embarras, car elle s'y était prise trop tard pour s'arranger avec les voisines. Il n'y avait pas seulement une chaise en une chambre fermée où elle put passer la nuit. « Alors, dit le grand bûcheux, il faut vous en aller dormir avec Thérence. Mon garçon et moi passerons le temps ici, et personne n'y pourra trouver à redire. » J'avisai que, pour ôter tout prétexte à la jalousie de Joseph, il était aisé à Brulette de s'échapper avec moi sans rien dire, et le grand bûcheux allant à lui et l'occupant par ses questions, j'emmenai ma cousine au vieux château, en sortant par le jardin de ma tante. Quand je revins, je trouvai le grand bûcheux, Joseph et Huriel attablés ensemble. Ils m'appelèrent et je me mis à souper avec eux, me prêtant à manger, boire, causer et chanter, pour éviter l'éclat du dépit qui aurait pu s'amasser dans les discours dont Brulette aurait été le sujet. Joseph, nous voyant ligués pour le forcer à faire bonne contenance, se posséda très bien d'abord, et montra même de la gaieté. Mais, malgré lui, il mordit bientôt en caressant, et on sentait qu'à tout propos joyeux, il avait un aiguillon au bout de la langue, ce qui l'empêchait d'y aller franchement. Le grand bûcheux eût souhaité endormir son fiel par un peu de vin. Et je crois que Joseph s'y serait prêté de bon cœur pour s'oublier lui-même. Mais jamais le vin n'avait eu de prise sur lui, et moins que jamais il en ressentit le bon secours. Il but 4 fois comme nous autres, qui n'avions pas de raison pour vouloir enterrer nos entendements, et il n'en eut que les idées plus claires et la parole plus nette. Enfin, à une méchanceté un peu trop forte qui lui vint, sur la finesse des femmes et la traîtrise des amis, Huriel, frappant du poing sur la table et prenant dans ses mains le bras de son père, qui depuis longtemps le poussait du coude pour le rappeler à la patience. « Non, mon père, dit-il, pardonnez-moi, mais je n'en puis endurer davantage, et il vaut mieux s'expliquer ouvertement quand on y est. Que ce soit demain, ou dans une semaine, ou dans une année, je sais que Joseph aura la dent aussi pointue qu'à 7 heures. » Et si j'ai l'oreille fermée jusque-là, il faudra bien toujours qu'elle finisse par s'ouvrir aux reproches et aux injustices. Voyons, Joseph, il y a une bonne heure que je comprends, et tu as dépensé beaucoup d'esprit de trop. Parle, chrétien, j'écoute. Dis ce que tu as sur le cœur, le pourquoi et le comment. Je te répondrai de même. Allons, soit, expliquez-vous, dit le grand bûcheux en renversant son verre et prenant son parti comme il savait le faire à l'occasion. On ne boira plus, si ce n'est pour trinquer de franche amitié, car il ne faut pas mêler le venin du diable au vin du bon Dieu. Vous m'étonnez beaucoup tous les deux, dit Joseph, qui devint jaune jusque dans le blanc de l'œil, et qui cependant continua de rire mauvaisement. À qui diantre en avez-vous? Et pourquoi vous grattez-vous quand nulle mouche ne vous pique? Je n'ai rien contre personne. Seulement, je suis en humeur de me moquer de tout, et je ne pense pas que vous m'en puissiez ôter l'envie. Peut-être, dit Huriel, dépité à son tour. Essayez-y donc, reprit Joseph, toujours ricanant. Assez, dit le grand bûcheux, frappant sur la table avec sa grosse main noueuse. « Taisez-vous l'un et l'autre. Et puisqu'il n'y a pas de franchise chez toi, Joseph, j'en aurai pour deux. Tu as méconnu dans ton cœur la femme que tu voulais aimer. C'est un tort que le bon Dieu peut te pardonner, car il ne dépend pas toujours d'un homme d'être confiant ou méfiant dans ses amitiés. Mais c'est, à tout le moins, un malheur qui ne se répare guère. Tu es tombé dans ce malheur. Il faut t'y accoutumer et t'y soumettre. » « Pourquoi donc ça, mon maître ? » dit Joseph, se redressant comme un chat sauvage. « Qu'est-ce qui s'est chargé de dire mon tort à celle qui n'en avait pas eu connaissance et qui n'a rien eu à en souffrir ?»« Personne, » répondit Huriel. « Je ne suis pas un lâche. »« Alors, qui s'en chargera ? » reprit Joseph. « Toi-même, » dit le grand bûcheux. « Et qui m'y obligera ? » ?»« La conscience de ton propre amour pour elle. » Un doute ne va jamais seul, et si tu es guéri du premier, il t'en viendra un second qui te sortira des lèvres au premier mot que tu lui voudras dire. Mais ta vie, Joseph, dis-je à mon tour, que c'est déjà fait, et que tu as offensé ce soir la personne que tu veux disputer. C'est possible, répondit-il fièrement, mais cela ne regarde qu'elle et moi. Si je veux qu'elle en revienne, qui vous dit qu'elle n'en reviendra pas? « Je me rappelle une chanson de mon maître, dont la musique est belle et les paroles vraies. On donne à qui demande. »« Eh bien, marchez, Huriel. Demandez en paroles. Moi, je demanderai en musique. Et nous verrons si on est trop engagé avec vous pour ne pas se retourner de mon côté. Voyons, allez-y franchement, vous qui me reprochez d'y aller de travers. Nous voilà à deux de jeu. Nous n'avons pas besoin de nous déguiser. » « Une belle maison n'a pas qu'une porte, et nous frapperons chacun à la nôtre. »« Je le veux bien, » répondit Huriel. « Mais vous ferez attention à une chose, c'est que je ne veux plus de reproches, ni sérieux, ni moqueurs. Si j'oublie ce que j'aurais à vous faire, ma douceur n'ira pas jusqu'à souffrir ce que je ne mérite pas. »« Je veux savoir ce que vous me reprochez, » fit Joseph, à qui le trouble de sa bile ôtait la souvenance. « Je vous défends de le demander, et je vous commande de vous en aviser vous-même, » répondit le grand bûcheux. « Quand vous échangeriez quelques mauvais coups avec mon fils, vous n'en seriez pas plus blanc pour cela, et vous n'auriez pas sujet d'être bien fier si je vous retirais le pardon que, sans rien dire, mon cœur vous a accordé. » « Mon maître, » s'écria Joseph, très échauffé d'émotion, « si vous avez cru avoir quelque pardon à me faire, je vous en remercie. Mais dans mon idée, je ne vous ai pas fait d'offense. Je n'ai jamais songé à vous tromper. Et si votre fille avait voulu dire oui, je n'aurais pas reculé devant mon offre. C'est une fille sans pareille pour la raison et la droiture. Je l'aurais aimée, mal ou bien, mais sincèrement et sans trahison. Elle m'eût peut-être sauvée de bien des torts et de bien des peines. Mais elle ne m'en a pas trouvé digne. Or donc, je suis libre, à cette heure, de rechercher qui me plaît. Et je trouve que celui qui avait ma confiance et me promettait son secours s'est bien dépêché de profiter d'un moment de dépit pour me vouloir supplanter. » « Ce moment de dépit a duré un mois, Joseph, » répondit Huriel. « Soyez donc juste, un mois, pendant lequel vous avez par trois fois demandé ma sœur. Je devais donc penser que vous en faisiez une dérision, et pour vous justifier d'une pareille insulte auprès de moi, il faut que vous me blanchissiez de tout blâme. J'ai cru à votre parole. Voilà tout mon tort. Ne me donnez point à croire que c'en soit un dont je me doive repentir. » Joseph garda le silence. Puis, se levant, « Oui, vous avez raison dans le raisonnement, » dit-il. « Vous y êtes tous deux plus forts que moi. » Et j'ai parlé et agi comme un homme qui ne sait pas bien ce qu'il veut. Mais vous êtes plus fou que moi, si vous ne savez pas que, sans être fou, on peut vouloir deux choses contraires. Laissez-moi pour ce que je suis, et je vous laisserai pour ce que vous voudrez être. Si vous êtes un cœur franc, Huriel, je le connaîtrai bientôt. Et si vous gagnez la partie de bon jeu, je vous rendrai justice et me retirerai sans rancune. « À quoi connaîtrez-vous mon bon cœur ? si vous n'avez pas encore été capable de le juger et de m'en tenir compte ?»«
À ce que vous direz de moi, Brulette, » répondit Joseph. « Il vous est commode de l'indisposer contre moi, et je ne peux pas vous rendre l'appareil. »«
Attends, » dis-je à Joseph, « n'accuse personne injustement. Thérence a déjà dit à Brulette que tu l'avais demandé en mariage il n'y a pas 15 jours. »
« Mais il n'a pas été dit et il ne sera pas dit autre chose, » ajouta Huriel.
« Joseph, nous sommes meilleurs que tu ne crois. Nous ne voulons pas t'ôter l'amitié de Brulette. »
Cette parole toucha Joseph, et il avança la main comme pour prendre celle d'Huriel. Mais son bon mouvement demeura en route, et il s'en alla, sans dire un mot de plus à personne.
« C'est un cœur bien dur, » s'écria Huriel, qui était trop bon pour ne pas souffrir de ces airs d'ingratitude.
« Non, c'est un cœur malheureux, » lui répondit son père.
Frappé de cette parole, je suivis Joseph pour le gronder ou le consoler, car il me semblait qu'il emportait la mort dans ses yeux. J'étais aussi mal content de lui qu'Huriel, mais l'habitude que j'avais eue de le plaindre et de le soutenir m'emportait vers lui quand même. Il marchait si vite sur le chemin de Nohant que je l'eus bientôt perdu de vue. Mais il s'arrêta au bord du Lajon, qui est un petit étang sur une brande déserte. L'endroit est triste et n'a pour tout ombrage que quelques mauvais arbres mal nourris en terre maigre. Mais le marécage foisonne de plantes sauvages, et comme c'était le moment de la pousse du plateau blanc et de 1000 sortes d'herbages de marais, il y sentait bon, comme en une chapelle fleurie. Joseph s'était jeté dans les roseaux, et ne se sachant pas suivi, se croyant seul et caché, il gémissait et grondait en même temps, comme un loup blessé. Je l'appelai, seulement pour l'avertir, car je pensais bien qu'il ne me voudrait pas répondre, et j'allai droit à lui.
« Ce n'est pas tout ça, lui dis-je, il faut s'écouter. » Et les pleurs ne sont pas des raisons.
Je ne pleure pas, Tiennet, me répondit-il d'une voix assurée. Je ne suis ni si faible ni si heureux que de me pouvoir soulager de cette manière-là. C'est tout au plus si, dans les pires moments, il me vient une pauvre larme hors des yeux. Et celle qui cherche à en sortir, à cette heure, n'est pas de l'eau, mais du feu, que je crois, car elle me brûle comme un charbon ardent. Mais ne m'en demande pas la cause. Je ne sais pas la dire ou ne veux pas la chercher. Le temps de la confiance est passé. Je suis dans ma force et ne crois plus à l'aide des autres. C'était de la pitié. Je n'en ai plus besoin et ne veux plus compter que sur moi-même. Merci de tes bonnes intentions. Adieu. Laisse-moi.
Mais où vas-tu passer la nuit?
Je vais voir ma mère.
Il est bien tard. Et il y a loin d'ici à Saint-Chartier.
N'importe, dit-il en se levant, je ne saurais rester en place. Nous nous reverrons demain, Tiennet.
Oui, chez nous, car c'est demain que nous y retournons.
Ça m'est égal, dit-il encore. Où elle sera, je saurai bien la retrouver, votre Brulette, et elle n'a peut-être pas encore dit son dernier mot.
Il s'en alla d'un air très résolu. Et voyant que sa fierté le soutenait, je renonçai à le tranquilliser. Je comptais que la fatigue, le plaisir de voir sa mère et une ou deux journées de réflexion le ramèneraient à la raison. Je projetais donc de conseiller à Brulette de rester au Chassin jusqu'au surlendemain. Et, revenant vers ce village, je trouvais, dans le coin d'un pré que je traversais pour m'abréger le retour, le grand bûcheux et son fils qui faisaient, comme ils disaient, leur couverture, ce qui signifiait qu'ils s'arrangeaient pour dormir dans l'herbe, ne voulant pas déranger les deux fillettes au vieux château, et se faisant un plaisir de reposer à la franche étoile en cette douce saison de printemps. Leur idée me sembla bonne, et le gazon frais meilleur que le foin échauffé, en quelques greniers, par une trentaine de camarades. Je m'étendis donc à leur côté, et, regardant les petits nuages blancs dans le ciel clair, respirant l'aubépine et songeant à Thérence,
je m'endormis du meilleur somme que j'eusse jamais fait. J'ai toujours été franc dormeur et m'en suis rarement tiré de moi-même dans ma jeunesse. Mes deux camarades de lit, ayant beaucoup marché pour venir au Chassin, laissèrent aussi lever le soleil et s'éveillèrent en riant de se voir devancés par lui, ce qui ne leur arrivait pas souvent. Ils s'égayèrent encore davantage en regardant comme je m'y prenais pour ne pas tomber dans la ruelle, en ouvrant les yeux sans savoir où j'étais. « Or ça, dit Huriel, debout, mon garçon, car nous voilà en retard. Sais-tu une chose ? C'est que nous sommes aujourd'hui au dernier jour de mai, et que c'est chez nous la coutume d'attacher le bouquet à la porte de sa bonne amie, quand on ne s'est pas trouvé à même de le faire au premier jour du mois. Il n'y a point de risque qu'on nous ait prévenus, puisque d'une part on ne sait point où sont logés ma sœur et ta cousine, et que de l'autre, on ne pratique pas chez vous ce bouquet du revenez-y. Mais nos belles sont peut-être déjà éveillées, et si elles sortent de leur chambre avant que le mai soit planté à l'huisserie, elles nous traiteront de paresseux. « Comme cousin, répondis-je en riant, je te permets bien de planter ton mai, et comme frère, ta permission serait bonne pour le mien. Mais voilà le père qui n'entend peut-être pas de la même oreille. « Si fait, dit le grand bûcheux, Huriel m'a dit quelque chose de cela. Essayer n'est pas difficile, réussir c'est autre chose. Si tu sais t'y prendre, nous verrons bien, mon enfant. Cela te regarde. » Encouragé par son air d'amitié, je courus au buisson voisin et coupai bien gaiement tout un jeune cerisier sauvage en fleurs, tandis qu'Huriel, qui s'était à l'avance pourvu d'un de ces beaux rubans tissus de soie et d'or qu'on vend dans son pays, et que les femmes mettent sous leur coiffe de dentelle, mêlait de l'épine blanche avec de l'épine rose et les nouait en un bouquet digne d'une reine. Nous ne fîmes que trois enjambées du pré au château, et le silence qui y était nous assura que nos belles dormaient encore, sans doute pour avoir causé ensemble une bonne partie de la nuit. Mais notre étonnement fut grand lorsque, entrant dans le pré, nous vîmes un superbe mai tout chamarré de rubans blancs et argent pendu à la porte que nous pensions étrenner. « Oui, da, dit Huriel, se mettant en devoir d'arracher cette offrande suspecte et regardant de travers son chien qui avait passé la nuit dans le préau. « Comment donc avez-vous gardé la maison, maître Satan ? Avez-vous fait déjà des connaissances dans le pays, que vous n'avez pas mangé les jambes de ce planteur de mai ?»« Un moment, dit le grand bûcheux, arrêtant son fils qui voulait ôter le bouquet. Il n'y a par ici qu'une connaissance que Satan soit capable de respecter et qui sache la coutume du revenez-y pour l'avoir vu pratiquer chez nous. Or, tu as promis à celui-là justement, de ne le point contrecarrer. Contente-toi donc de plaire sans le faire prendre en déplaisance, et respecte son offrande, comme sans doute il eût respecté la tienne. « Oui, mon père, dit Huriel, si j'étais sûr que ce fût lui, mais qui nous dit que ce ne soit pas quelque autre ? Et pour Thérence, peut-être ? Je lui observai que personne ne connaissait Thérence et ne l'avait peut-être encore vue. Et en regardant les fleurs de nénuphar blanc qui étaient liées là, en gerbe et fraîchement arrachées, je me rappelais que ces plantes n'étaient pas communes dans l'endroit et ne poussaient guère que dans les marais du Lajon, où j'avais vu Joseph s'arrêter. Sans doute, au lieu de s'en aller à Saint-Chartier, il était revenu sur ses pas. Et il avait même fallu qu'il entrât bien avant dans l'eau et dans le sable mouvant, qui est dangereux, pour en retirer une si belle provision. « Allons, dit Huriel en soupirant, c'est donc que la bataille commence entre nous. » Et il attacha son mai d'un air soucieux que je trouvais bien modeste de sa part, car il me semblait pouvoir être sûr de son fait et ne craindre personne. J'aurais bien voulu être aussi assurée de ma chance auprès de sa sœur, et en plantant mon bouquet, le cœur me battait comme si je l'eusse senti derrière la porte, toute prête à me le jeter à la figure. Aussi devins-je pâle quand cette porte s'ouvrit. Mais ce fut Brulette qui parut la première, donna le baiser du matin au grand bûcheux, une poignée de main à moi, et montra une mine tout enrougie d'aise à Huriel, à qui elle n'osa cependant rien dire. « Oh, mon père !» dit Thérence, arrivant aussi et embrassant bien fort le grand bûcheux. « Vous avez donc fait le jeune homme toute la nuit ? Allons, entrez, que je vous fasse déjeuner. Mais auparavant, laissez-moi regarder ces bouquets. « Trois, Brulette ? Oh, comme vous y allez, mignonne ! Est-ce que cette procession-là va durer tout le matin ?»«
Deux seulement pour Brulette, » répondit Huriel. « Le troisième est pour toi, ma sœur. »
Et il lui montra mon cerisier, si chargé de fleurs qu'il avait déjà fait une pluie blanche sur le seuil de la porte.
« Pour moi ?» dit Thérence étonnée.
« C'est donc toi, frère, qui as craint de me rendre jalouse de Brulette ?»«
Un frère n'est pas si galant que ça, » dit le grand bûcheux. « N'as-tu donc aucune doutance d'un amoureux craintif et discret qui serre les dents au lieu de se déclarer ?»
Thérence regarda autour d'elle, comme si elle cherchait quelque autre que moi. Et quand elle arrêta ses yeux noirs sur ma figure déconfite et sotte, je crus qu'elle allait rire, ce qui me perçait le cœur. Mais elle n'en fit rien, et rougit même un si peu. Puis, me tendant la main bien franchement, « Merci, Tiennet, » fit-elle. « Vous avez voulu me marquer votre souvenir, et je l'accepte, sans plus m'en faire accroire qu'il ne faut pour un bouquet. »
« Eh bien, » dit le grand bûcheux, « si tu l'acceptes, ma fille, il t'en faut, suivant l'usage, attacher un brin sur ta coiffe. »«
Mais non, » répondit Thérence, « cela pourrait fâcher quelques filles du pays, et je ne veux point que ce bon Tiennet ait à se repentir pour m'avoir fait une honnêteté. »
« Oh, ça ne fâchera personne !» m'écriai-je. « Et si ça ne vous fâche point vous-même, ça me contentera grandement. »«
Soit, » dit-elle, en cassant une petite branche de mes fleurs qu'elle s'attacha d'une épingle sur la tête. « Nous ne sommes ici qu'aux chassins, Tiennet. Si nous étions en votre endroit, j'y ferais plus de façon. Crainte de vous brouiller avec quelques payses. »
« Brouillez-moi avec toute Thérence, je ne demande pas mieux. »«
Pour cela, » dit-elle, « ce serait aller trop vite. Quand on dépouille son prochain, il faut le dédommager, et je ne vous connais pas assez, Tiennet, pour dire que nous y gagnerions tous les deux. »
Puis, détournant ce propos avec l'oubli d'elle-même qu'elle faisait si naturellement,
« C'est à ton tour, mignonne, » dit-elle à Brulette. « Quel remerciement vas-tu faire de ces deux mets, et dans lequel choisiras-tu ton fleuron ?»«
Dans aucun, si je ne sais d'où ils me viennent, » répondit ma prudente cousine. « Parlez donc, Huriel, et m'empêchez de faire une méprise. »«
Je ne peux rien dire, » dit Huriel, « sinon que voilà le mien. »«
Alors je le prends tout entier, » fit-elle en le détachant. Et quant à ce bouquet de rivière, m'est avis qu'il se déplaît bien pendu à ma porte. Il se trouvera mieux dans le fossé. »
Parlant ainsi, elle orna sa coiffe et son corsage des fleurs d'Huriel. Et après avoir serré le récent dans sa chambre, elle se disposait à jeter l'autre dans le reste d'ancien fossé qui séparait le préau du petit parc. Mais comme elle y portait la main, Huriel s'étant refusé à faire une telle insulte à son rival, un son de musette sortit du bois dont le taillis serrait la petite cour en face de nous, et quelqu'un qui par conséquent se trouvait caché assez près pour entendre et voir toute chose, joua l'air des trois fendeux du père Bastien. Il le joua d'abord tel que nous le connaissions, et ensuite un peu différemment, d'une façon plus douce et plus triste, et enfin le changea du tout au tout, variant les modes et y mêlant du sien, qui n'était pas pire, et qui même semblait soupirer et prier d'une manière si tendre qu'on ne se pouvait tenir d'en être touché de compassion. Ensuite, il le prit sur un ton plus fort et plus vif, comme si c'était une chanson de reproche et de commandement. Et Brulette, qui s'était avancée et arrêtée au bord du fossé, prête à y jeter le mets, mais ne s'y pouvant décider, recula, comme effrayée de la colère qui était marquée dans cette musique. Alors Joseph, écartant les broussailles avec ses pieds et ses épaules, parut sur le revers du fossé, l'œil en feu, sonnant toujours, et semblant, par son jeu et sa mine, menacer Brulette d'un grand désespoir si elle ne renonçait point à l'affront qu'elle avait eu dessein de lui faire.